Le thème du congrès de l'UPA était « Nourrir en 2048 ». Elsie Lefebvre partageait la tribune avec Jean-Louis Roy, ancien journaliste, diplomate et président-directeur général de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Les deux se demandaient ce que serait le Québec en 2048. Au chapitre de l'alimentation, voici ce que disait Elsie Lefebvre, communicatrice, analyste et directrice de La Ruche Grand Montréal.
C'est tout l'aménagement du territoire et comment on vit qui est modifié. Et là où l'agriculture et les transports, je pense que comme gens qui s'intéressaient à l'agriculture, c'est très lié parce que, c'est drôle parce que je ne suis pas évidemment l'experte des dossiers en agriculture, mais quand même en lisant certaines choses, il y a plusieurs éléments qui m'ont marqué, notamment encore l'impact que ça peut avoir au niveau de l'environnement. Donc, il va falloir diminuer nos gaz à effet de serre d'une manière ou d'une autre. Donc, deux des secteurs les plus importants qui causent des GES, c'est les transports et l'agriculture. Donc, les deux sont interreliés. Donc, quand on parle d'électrification des transports, bien, c'est d'une manière de faire baisser pour peut-être compenser pour d'autres secteurs de notre collectivité qui en consomment. Donc, des économistes disaient il y a quelques jours que la production alimentaire était responsable en 2018 du quart des émissions de GES à l'échelle planétaire. Et la production bovine utilisait près de 70 % de l'eau douce et occupait environ 40 % de la superficie de la terre en pâturage. Donc, quand on lit ces statistiques-là, c'est sûr que quand on regarde une ferme, mais quand on le projette à l'échelle du monde, on se rend compte des impacts fondamentaux et importants que ça a. Et ça nous interpelle, je crois, d'une manière à faire des changements. Au niveau de l'agriculture, je crois qu'il va y avoir des changements très, très majeurs en 2048 parce qu'en 2018, on faisait déjà des projections où on pouvait imaginer que la population mondiale allait atteindre 10 milliards de personnes. Donc, si on atteint 10 milliards de personnes et on continue de consommer nos aliments de la manière où on le fait aujourd'hui, donc si on continue à avoir une diète qui ressemble à celle qu'on a aujourd'hui, ça voudrait dire 60 % de plus de nourriture à produire. Donc, dans un contexte où on fait de la production de protéines animales, végétales, laitières, tout ça, ça peut être une bonne nouvelle en soi. Donc, je pense que c'est une industrie qui est en croissance. Mais quand on le projette dans une perspective de préserver la planète, parce qu'évidemment, sans vouloir faire des scénarios catastrophes, il reste qu'on subit à l'heure actuelle les impacts des changements climatiques. On l'a vu ici avec des ouragans puis des inondations. On a vu la Californie tout récemment où les brasiers sont partout. Donc, c'est vraiment une question préoccupante. Donc, en 2048, mon sentiment réel, je le pense profondément, c'est que l'agriculture et tout ce qui est la consommation de nourriture va être au cœur de nos choix de consommation et de notre manière de vivre ici au Québec et même dans le monde. En 2018, il y a une étude qui était lancée puis qui disait que l'évolution mondiale vers des régimes alimentaires sains et davantage basés sur les plantes était une voie d'avenir. Donc, vous le savez mieux que moi, donc tout le débat sur le végétarisme, le véganisme même. Donc, aujourd'hui, ça semble un peu ésotérique, mais quand on regarde les statistiques, puis quand on regarde l'évolution, justement, des populations mondiales, puis quand on regarde l'empreinte écologique que les différentes exploitations ont, bien, je pense qu'on n'a pas le choix de se dire que ça se peut que ça arrive. Moi, je ne pense pas qu'en 2048, on va tous être vegan, pas du tout. Mais je pense tout de même qu'il va y avoir une révolution importante dans notre manière de consommer la viande.
Et c'est commencé.
Ben voilà. Et donc, c'est commencé ici au Québec, puis ça prend quand même une proportion. Quand on regarde l'évolution d'année en année, le pourcentage de gens qui changent vers une consommation plus végétarienne ou végane, elle est vraiment importante.
L'exercice visait à amener les congressistes de l'UPA à réfléchir sur les changements, les bouleversements qui viendront au cours des 30 prochaines années. L'exercice aura été un succès, certes, mais certaines données présentées par Elsie Lefebvre seraient contestables, comme le soulignait le président de l'Union des producteurs agricoles, Marcel Groslot.
J'étais assis, moi, devant les producteurs de bovins.
Oui.
Alors, quand tu as parlé peut-être du bœuf, je les entendais ruminer un peu plus fort. Là.
En coulisses, je me suis entretenu avec le président des éleveurs de bovins du Québec, Claude Vielle, qui a sursauté d'entendre, entre autres, que 70 % de l'eau potable serait utilisée pour l'élevage bovin.
Bon, c'est évident que quand on parle de la quantité d'eau consommée et des gaz à effet de serre et qu'on regarde seulement qu'une étude qui a été publiée peut-être il y a 15-20 ans, on a un peu de difficulté avec ça, premièrement. Deuxièmement, nous, on aurait souhaité, tout cas, on souhaiterait avoir la version de l'autre côté. Maintenant, on pense que, en tout cas, selon nos études qu'on a, qui ne sont pas encore traduites à 100 % qu'on veut traduire, on a un très grand doute sur le 70 % de l'eau utilisée pour faire de la viande. Vous comprendrez qu'il n'y aurait plus d'eau sur la planète, ça fait quelques années, à mon avis, si on avait vraiment utilisé autant d'eau que ça pour produire de la viande. Alors là-dessus, c'est évident que notre façon, ça peut nous permettre de réagir ou de travailler un peu plus fortement pour justement informer mieux les citoyens en ce qui concerne les vraies consommations et les vrais gaz à effet de serre qui pourraient être causés par la production de viande rouge. Parce qu'on peut se dire qu'on a peut-être eu un peu de laxisme en ce qui concerne l'information donnée à nos citoyens. Les citoyens continuent à manger de la viande et ils n'arrêteront pas demain matin. Les producteurs canadiens ont quand même diminué de beaucoup les quantités de gaz à effet de serre et la consommation d'eau de par l'amélioration génétique, de par leurs pratiques et de par des consommations d'aliments qu'on met pour avoir des gains de poids intéressants. Maintenant, il ne faut jamais oublier que les pâturages de l'Ouest canadien ou du Québec qui sont utilisés pour faire du bovin, l'eau tombe là quand même, qu'on ait des bovins ou qu'on n'ait pas, et la consommation d'herbage, si elle n'est pas consommée, elle est perdue. Alors, moi, on comprend que si on prend la totalité de l'eau qui tombe sur un hectare et qu'on la met, on la transforme en kilos de viande produite, je comprends que ça fait des grosses quantités. Nos calculs, selon mon expérience comme producteur, je pense que sur 100 % de l'eau tombée, il y en a peut-être 95 % qui retourne en nappe phréatique. Le 5 % sert à faire pousser l'herbage. Donc, si on prend 100 % de l'eau dans le calcul, je comprends que ça fasse des grosses quantités.
Et j'entendais des producteurs dire également qu'il y a toujours un risque à prendre des études faites dans d'autres régions de production. Le contexte de production québécois, contexte québécois, est assez différent là, à cet égard-là. Vous avez parlé de l'eau. C'est le cas pour l'eau.
C'est ça. Maintenant, de l'eau au Québec, je ne pense pas qu'on la gaspille, mais en même temps, on n'est pas en manque. L'eau qui descend du Saguenay, qui s'en va dans le fleuve, s'en va dans l'océan, vous comprendrez que c'est de l'eau propre qui devient salée, puis qui a été évaporée, puis qui revient. Tu sais, le cycle de l'eau, je pense qu'en quatrième année, ils nous l'expliquaient à l'école. Il y en a peut-être qui ne l'ont pas compris, mais nous, on l'a compris. Alors, il faut faire attention. Mais oui, les études doivent être le plus proche possible de la production. Au Québec, la façon de produire fait qu'on a des gains de poids intéressants. Mais je reviens toujours à l'utilisation des terres, que si ce n'est pas du bovin qu'il y a là-dessus, qu'est-ce qu'il va y avoir dans des terres impropres à faire du maraîchage? Dans mon coin de pays, d'ailleurs, où il y a bien de la roche, je pense que l'utilisation d'herbage pour nourrir des animaux, je pense que c'est une belle option. Et c'est des animaux qui sont élevés en grande majorité au pâturage à l'extérieur, selon ce que les citoyens souhaitent aussi. Là, si les animaux soient en liberté, je pense que dans la production bovine, c'est pas mal ce qu'on fait dans la grande partie de la vie de l'animal. Là.
Et lorsqu'on voit des études, il y en a des toutes récentes encore qui disent qu'il y a une montée là, de la protéine végétale. Ça semble se confirmer sur les marchés, effectivement, mais comment vous voyez ça? Est-ce que c'est inquiétant pour des producteurs bovins?
Je pense que c'est évident que les consommateurs, aujourd'hui, diversifient leur alimentation bien au-delà de ce qu'on faisait il y a 30 ans passé. Vous comprendrez, le bûcheron qui mangeait un steak de saison, ça va dans les bûchers, il avait besoin de ça, puis il n'était pas trop. Aujourd'hui, je comprends que les citoyens mangent différemment. Selon leur emploi qu'ils font. Puis ça, je le conçois, on a toujours été bien à l'aise à ce que l'assiette soit diversifiée. Moi, je pense que de manger de la salade 365 euros par année n'est pas plus santé que de manger du bœuf 365 euros par année. Les deux ensemble peuvent être intéressants. Fait que moi, c'est comme ça que je le vois, une assiette diversifiée. Maintenant qu'il y a eu une montée de végétarisme ou tout ça, ce qu'on a comme étude, c'est qu'il y en a plus qu'il y en avait, mais il y a plus de monde aussi. Selon certaines études canadiennes, ce qu'on entend, puis on va le valider officiellement, mais ce qu'on entend, c'est que le pourcentage de végétarisme n'a pas monté. Il y a plus de végétarisme parce qu'il y a plus de monde. Et ce qu'on entend aussi, puis ce qu'on voit, c'est que les pays asiatiques, eux, demandent de la protéine animale, ce qui était différent il y a quelques années. Alors, on a vu dans la conférence, le premier conférencier disait que la richesse s'en va vers l'Est, vers les pays de l'Est. Ils vont manger de la viande, ils en mangent déjà de plus en plus. Et comme producteur, on regarde à fournir ces marchés-là. Là. Tu sais, c'est évident qu'on les regarde. Si nos consommateurs ont diminué per capita, on a eu une étude, je parlais tantôt à quelqu'un de la Banque nationale qui me disait qu'il y a une étude américaine qui dit que per capita, les Américains mangent plus de viande rouge qu'avant. Alors, mais il y a des tendances et on les entend un peu plus. Les gens, on le voit dans bien des cas, c'est un petit groupuscule qui fait beaucoup de bruit.
Et il y a aussi le principe qui veut que peut-être qu'on pourrait manger moins de viande, mais on pourrait la manger plus locale. Donc, les Québécois pourraient manger de la viande québécoise.
C'est évident qu'on travaille là-dessus aussi. On a quand même, comme on a déjà dit dans d'autres forums, on a un site à la Fédération qui permet aux producteurs de s'annoncer comme vendeurs de viande et comme consommateur peut aller sur ces sites-là pour avoir le lien. On a toujours supporté les productions locales et ça, comme Fédération, ça fait partie de notre mandat. Maintenant, il restera toujours le bœuf à volume, les productions pour nourrir le citoyen en général. Mais oui, le bœuf local sera toujours très intéressant pour ceux qui le produisent si le consommateur le veut bien.
En terminant, on est à peu près à quel pourcentage? On est rendu à quoi là, de consommation de bœuf québécois sur le marché québécois? Pourcentage par rapport à la consommation générale?
C'est extrêmement difficile de dire bœuf québécois sur la consommation québécoise parce qu'il y a une bonne partie de notre viande est transformée, est abattue à l'extérieur, revient en transformation au Québec, mais est beaucoup abattue à l'extérieur à cause des plans d'abattage puis de la disponibilité de... Mais c'est qu'il y a à peu près autour de 20% de la viande. On fournit à peu près 20% du volume. Vous savez comment ça fonctionne. Une partie des bovins sont exportés et il y a des parties qu'on consomme parce qu'on ne consomme pas 100% de la carcasse est importée. La partie canadienne, le Canada exporte environ 50% de sa production, mais au total, à peu près 20% au Québec qu'on produit le pourcentage consommé.
Mais une chose qui est certaine, peu importe les tendances de marché, peu importe aussi ces chiffres-là, ces données-là sur l'aller-retour des carcasses, etc., chose certaine, il y a encore de la place pour du développement de la production bovine québécoise.
Oui, il y a de la place, surtout qu'on a diminué la production il y a quelques années suite à beaucoup de problématiques des producteurs. Là, le marché s'est raffermi et dans la production veau d'embauche, entre autres, dans les régions périphériques où il y a de l'espace herbagère, encore une fois, d'utiliser ces pâtures là et ces herbes-là pour nourrir des bovins est probablement une des solutions qui pourrait permettre de protéger l'environnement parce que le carbone est capté par les plantes, l'animal le consomme et on le transforme en viande. Alors moi, je pense que selon certaines études, on sait le contraire de ce que certains aiment dire.
Et il y a moins de gaz à effet de serre émis par les camions de transport.
Exactement. Si on le consomme proche de chez nous, puis on le produit proche de chez nous, on a des chances d'améliorer ce point-là.
Merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Ici Lionel Levac. Bien sûr, les productions animales vont toujours faire l'objet d'interrogations, voire de contestations. Mais il y aura toujours des amateurs de viande et de viande bovine en particulier. Donc, la contribution logique à la réduction des émissions de gaz à effet de serre est de produire localement ce que nous consommons. Et pour y arriver, il faut que les consommateurs soient eux aussi conscients de l'importance d'un approvisionnement local qui, bien sûr, doit quand même se faire dans les meilleures conditions environnementales. Au revoir.